Philippe Solers, nous sommes ici dans le bureau de l'infini. Et j'ai sous les yeux votre dernier livre qui a paru en folio directement et qui a pour titre « Théorie des exceptions ». Alors, est-ce que vous ne pensez pas que Gongora, justement, n'est pas une exception, mais une exception qui est en même temps un modèle, ce qui, je crois, est exactement le rôle de l'exception, dans votre conception du moins. Gongora exception.
Gongora pourrait être là parce qu'il répond à tous les critères de l'exceptionnalité au sens où je l'emploie, c'est-à-dire que c'est en effet à la fois quelque chose qui définit une loi, une loi profonde, organique du langage, et qu'en même temps, il est exclu de la règle générale, et même, comme j'aime dire, il montre à quel point la règle en général est infirme. Donc, loin que l'exception confirme la règle, elle a pour fonction de dévoiler l'infirmité de la règle. Et d'autre part, parce qu'il est ô combien le représentant de l'art baroque universel, où on retrouve, comme par hasard, bien entendu, les élèves des jésuites. Toujours eux, les revoilà encore avec cette prolifération contradictoire et étincelante d'œuvres, aussi bien plastiques, architecturales, musicales et littéraires.
Et ça nous conduit à un détour vers Balthazar Gracian.
Et Gracian est dans Théorie des exceptions. Et entre Gracian et Gongora, il est évident qu'il y a comme une connaturalité d'esprit et une profonde stratégie commune quant au langage. Et en pensant que vous m'interrogeriez sur Gongora, je me suis dit, alors que je ne l'avais pas lu depuis longtemps, que c'est un des poètes, un des écrivains qui est le plus présent dans ma mémoire. La mémoire est un thème très fondamental de Gongora. « Oh, memorias », dit-il très souvent. C'est le poète comme Shakespeare ou Dante, ou Baudelaire, dont les vers me reviennent sans cesse en mémoire, presque spontanément, par moments, quand j'ai envie d'un rythme parfait et d'une pensée subtilement contradictoire et absolue en un sens. Et qu'on l'ait appelé de son temps l'Homère ou le Pindare andalou ne me paraît pas du tout exagéré, même si son influence a été ensuite combattue et qu'il ait fallu attendre le XXe siècle pour le retrouver. Ça me paraît considérable de voir que Gongora est dans cet espace où on enregistre très profondément, presque cellulairement, ses réussites verbales. Quand vous comprenez, par exemple, qu'un vers comme « A batallas de amor, campo de pluma » me revient très souvent, dans des circonstances parfois très nocturnes. « À bataille d'amour, champ de plumes », pourquoi il dit ça, n'est-ce pas? Eh bien, parce que, justement, les plumes sont chez lui, pas seulement l'emblème de l'écriture, mais aussi celui des oiseaux et du désir, comme chez Dante, d'ailleurs, où le désir est toujours signifié soit par des flèches, soit par des plumes, etc. Il y a beaucoup de plumes chez Gongora. Mais un vers comme, oh, ce vers-là, « No es sordo el mar, la erudición engaña ». La mer n'est pas sourde, l'érudition trompe. Ouais. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on peut se répéter constamment, de même que, par exemple, dans les Soledades, ce vers exceptionnel, admirable, « Si mucho poco mapa le despliega », si beaucoup, peu de cartes le déploient. Regardez comme c'est superbement exprimé, c'est-à-dire, il est là dans une description du fait que le soleil va brusquement éclairer le paysage et va dévoiler à travers le brouillard tout un ensemble qu'on peut imaginer comme une plaine s'étendant à l'infini. Et la comparaison, c'est que en ouvrant une carte d'état-major, ou d'une carte du monde, planisphère, on va voir se dérouler brusquement beaucoup de choses en peu d'espace. Donc c'est ça, Gongora, c'est toujours cette espèce de condensation à la fois de la pensée, le cultisme, c'est le contraire de l'occultisme. Et c'est pour ça que l'occultisme déteste le cultisme. Et le cultisme, ça veut dire une science de la logique remarquable qui est à la fois une condensation des mots et une condensation de la pensée. Alors, cette tradition baroque espagnole est très oubliée. Parce que, je crois, historiquement, ce qui a pris le relais depuis deux siècles ou deux siècles et demi, c'est la poésie et la philosophie allemande, bien entendu, et qui a pesé de tout son poids sur la conception que nous faisons des rapports entre philosophie et poésie. Mais je voudrais prendre un exemple tout à fait éclatant de la permanence de Gongora. C'est, par exemple, les écrits très peu connus de Picasso. Picasso était un peintre qui n'arrêtait pas d'écrire et qui écrivait des textes qu'on pourrait dire automatiques si on se référait au surréalisme, mais qui sont plus que ça. parce qu'ils ne sont pas dans la tradition française de l'automatisme des surréalistes, mais il est directement, je dirais, dans la tradition, dans la continuité de Góngora. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le traducteur, Philippe Jacoté, parfois excellent traducteur de ces poèmes de Góngora, pas toujours, mais souvent, dit qu'il a commencé cette traduction pour qu'elle soit illustrée, aux deux sens du mot, par Giacometti, que ça n'a pas pu avoir lieu. Et puis qu'ensuite il a pensé que ça pourrait être illustré par Miro et que ça n'a pas pu avoir lieu. Mais quelle drôle d'histoire, parce que celui qui illustre Góngora de fond en comble, c'est Picasso. Il suffit d'entendre la façon dont Picasso écrit pour voir sa peinture, les mousquetaires par exemple, il y en a ici dans un coin, regardez-le, ça c'est du Góngora, c'est un mousquetaire de Picasso de la fin de sa vie.
Il y a aussi peut-être autre chose, Philippe Soler, c'est effectivement le cultisme de Picasso. J'entends par le cultisme, enfin, par exemple la guerre, par exemple le déjeuner sur l'air, par exemple les Ménines.
Tout à fait.
C'est-à-dire réflexion d'une peinture sur une peinture.
Il faut bien distinguer les mots, le cultisme. Et c'est en quoi, justement, Picasso n'était pas surréaliste, pas plus que Góngora n'était, spiritualiste, au sens d'une poésie qui voudrait nous faire atteindre l'au-delà. Mais au contraire, lui, il est dans la précision du concret. Encore, on trouve toujours les jésuites. Tout ça est admirable, comme ça traverse les siècles avec une aisance parfaite. Et Góngora, vous comprenez, qu'est-ce qu'il veut? Quand on lit les Soledades, on se dit, mais c'est barbant, on va pas pouvoir lire tout ça. Qu'est-ce que ça raconte? De quoi s'agit-il? Il n'y a aucun drame. Il y a simplement des mélanges et des entrechoquements de matière. Et c'est une poésie qui veut aller au fond de la matière et réfléchir sur les transformations fondamentales de la substance. Que vous ayez la mer, les nuages, les rivières, les ailes, le diamant, le papillon, le cristal, l'écume, l'or, l'argent, le saphir, encore une fois les flèches, la brise, les plumes, la poussière ou le soleil, vous comprenez? Il s'agit de mettre les mots dans ce fonctionnement minéral, aérien, terrestre, igné, liquide de la matière, et c'est tout ce qui le préoccupe. C'est comme la peinture que vous avez au XVIIIe siècle, où Tiepolo, Watteau, etc., vous montre simplement qu'il ne se passe rien, que le temps ne va nulle part, mais que vous pouvez, avec le langage, faire comme une sorte, en effet, de diamant intégral. Et alors ça, c'est ce qui est tellement étonnant chez Góngora, et qui résiste au temps, et qui résiste à la mémoire qui oublie.